Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir Rav Eli Lemel, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Alors, on continue, comme on le fait chaque semaine avec vous, de survoler la paracha, le texte que nous lisons dans nos communauté de manière hebdomadaire, et on arrive donc à le chapitre qui s'appelle Tzav. Et Tzav parle des sacrifices. Alors moi, je vais oser vous dire que j'ai du mal avec cette histoire de sacrifice, pour deux raisons. La première, je vois pas en quoi, excusez-moi, hein, mais je vais être très direct, ça peut être utile. Je vois pas l'utilité que je vais aller acheter un taureau, je vois pas l'intérêt de faire. Voilà, je vois pas l'intérêt. Je comprends une prière, une demande, une supplication, une tshuva, demander pardon, tout ça je comprends. Faire des sacrifices, franchement, j'ai du mal à saisir. Plus, alors c'est peut-être l'air du temps, mais il y a aussi l'idée de souffrance animale. Dans les deux cas, si vous pouviez ce soir profiter de l'occasion de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que les sacrifices, quoi, finalement. J'ai presque envie de dire, et je vous parle évidemment avec énormément de respect, et pour vous et pour le texte dont nous discutons, j'ai envie de nous dire à quoi ça sert.
Exact. Alors c'est vrai qu'on touche, on est rentré donc dans le livre de Vayikra, et c'est vrai que cette semaine, on est en plein dans l'univers des korbanot. Alors korbanot, vous dites le mot sacrifice, c'est vrai que c'est le terme qui est usité de manière générale. Moi je préfère parler plus d'offrande, mais korban en vérité vient de la racine le karev, qui veut dire se rapprocher, donc c'est quelque chose qui crée un lien avec le créateur de l'univers, mais c'est vrai que cette idée d'amener entre autres au Beth Amikdash, au temple, des offrandes, qui sont des offrandes animales ou végétales, à leur propos, le texte nous dit « le Reach Nichoach Yishel Hashem », c'est une odeur agréable pour l'Éternel, c'est vrai que ça fait assez surprenant et on ne comprend pas véritablement ce qui se passe. Alors, pour cela, eh bien, j'aimerais citer Maïmonide tout d'abord. Alors, Maïmonide, à la fin des lois qui concernent l'univers du temple et des sacrifices, vous savez que Maïmonide, pour ceux qui l'étudient en tout cas, de manière générale, lorsqu'il conclut une thématique, eh bien, il donne d'abord les lois dans leurs détails, et puis à la fin, il exprime quand même le concept, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se passe là-dedans. Alors, c'est intéressant de voir que Maïmonide, dans le 8e Pérec d'Hilchot Me'ila, à la 8 d'ailleurs, eh bien, va dire la chose suivante. Il va dire nous avons l'obligation de chercher à comprendre le sens des commandements. Vous savez qu'en effet, lorsque nous avons reçu la Torah au Sinaï, on a dit Naase venishma, traduction nous allons faire et nous allons comprendre. Et souvent, d'ailleurs, les gens se contentent de faire mais ne cherchent pas à comprendre. C'est intéressant, alors que la Torah nous demande de comprendre. Et Maïmonide nous dit qu'il y a un impératif de comprendre, de chercher à comprendre le sens. Alors pourquoi ? Évidemment, si on réfléchit un instant, parce que quand vous comprenez le sens de ce que vous le faites de manière différente. Si vous le faites de manière mécanique, c'est un rituel. Si vous comprenez ce qui se joue à travers l'acte, évidemment, votre relation à l'acte et à ce que vous êtes en train de faire est radicalement autre. Mais Maïmonide nous dit « V'davar shelohim tzabo eila » et parmi les commandements de la Torah, les choses qu'il n'arrive pas nécessairement à appréhender complètement, Aliou kalbe enav, qu'il ne soit pas léger à ses yeux. Et Maïmonide dit, comme par exemple l'univers des corbanotes, l'univers des offrandes et des sacrifices. C'est-à-dire que Maïmonide ici est en train de nous expliquer dans le Mishneh Torah que, oui, en effet, il y a quelque chose qui se joue à l'intérieur de l'univers des corbanotes qui nous dépasse, mais ce n'est pas pour autant que ces choses doivent devenir légères à nos yeux. Au contraire, elles sont fondamentales. Et on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça peut représenter et ce que ça peut dire par rapport à nous. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire. On voit que très très tôt dans l'histoire, l'univers des corbanotes, des offrandes commence. On le voit d'ailleurs à travers un midrash, « Vetitav l'Hashem ishor par mafrin ou mafris » dit le texte, c'est-à-dire que Adam lui-même a déjà offert amener une offrande au Créateur. On va voir Caïn et Abel, mais là, ce sont des offrandes végétales. Mais on va voir par la suite, en effet, au niveau des Avot, au niveau des patriarches, et avec Noach, avec Noé. Donc, cette notion est présente. Au fond, quelle est l'idée qui se cache un petit peu derrière? Eh bien, entre autres, chaque élément présent dans l'univers a une fonction. Et tout le problème de l'humain, c'est de s'interroger sur la fonction qui est la sienne et surtout de réfléchir quelle est la fonction que doit occuper chaque élément de l'univers et de faire en telle sorte eh bien, que cet élément puisse remplir la fonction qui est la sienne. Une des choses les plus dramatiques, je pense, dans la vie, c'est, j'ai envie de dire, la transgression de l'interdit de Baal Tachrit. Baal Tachrit, c'est quoi? C'est gâcher. Gâcher, c'est-à-dire ne pas utiliser les éléments qui sont mis à notre disposition par rapport au but pour lequel ils ont été donnés. On peut gâcher son potentiel, on peut gâcher un élément concret que l'on a en face de nous. Et pour cela, je voudrais m'arrêter un petit peu sur un enseignement du Ra'avad, Rabbi Avraham ben David de Poskier. Poskier, c'est en France d'ailleurs, c'est un Rishon, c'est un contemporain plus ou moins de Maïmonide. Et le Ra'avad, dans son livre Baal et Nefesh, va nous dire qu'on peut à un moment faire un jeûne, mais en mangeant. Vous allez dire, c'est curieux, comment peut-on jeûner en mangeant? Il nous dit, bien tout simplement, en ne consommant pas ce que j'appellerais symboliquement la dernière frite. C'est-à-dire, en n'allant pas jusqu'au bout de son appétit, en mettant de côté la dernière cuillerée de crème au chocolat, et montrer qu'au fond, nous sommes dans la maîtrise de nous-mêmes, parce que la dernière cuillerée de crème au chocolat, nous n'en avons pas besoin, c'est de la gourmandise à l'état pur. Alors la gourmandise n'est pas interdite, mais néanmoins, pour montrer que nous ne sommes pas soumis à nos désirs de consommation. Vous allez dire, mais ça ne va pas, on jette la dernière frite, on jette la dernière cuillerée de chocolat, donc c'est du gâchis. C'est pas totalement exact, parce que chaque élément est là pour nous nourrir. Et vous avez ce que j'appellerais les nutriments matériels et les nutriments spirituels. Au fond, cette frite, cet élément que je jette et que je ne consomme pas, a rempli une fonction. Il est devenu nutriment spirituel parce qu'à travers le fait que j'ai pris de la distance par rapport à lui, je me suis élevé. Nous avons besoin en effet de nutriments matériels et de nutriments spirituels. Et peut-être que c'est là où en effet le korban s'inscrit. C'est-à-dire que le korban, l'animal, a une fonction à remplir dans l'univers. Désolé pour les tenants des théories spécistes, mais chaque élément présent dans l'univers a une fonction. Un fruit va être consommé maintenant, évidemment, si nous faisons la bénédiction avant, alors ce fruit a rempli pleinement sa fonction parce qu'il nous a élevés, non seulement parce qu'il nous a nourris physiquement, mais parce qu'il nous a aidés à prendre la mesure de ce que Dieu a mis à notre disposition et nous a fait grandir. Cet animal, lorsque l'on amène cet animal au temple, tout d'abord, évidemment, vous parlez de souffrance, vous savez très bien que les lois de la Shrita, de ce que l'on appelle la Shrita, quand on sacrifie un animal, j'aime pas le mot égorger parce que c'est une dimension ultra péjorative et très violente, sont là parce que justement, on doit tout faire pour que l'animal ne souffre pas, ou en tout cas souffre le moins possible, évidemment. Et ça, sur cela, la halakha, la loi juive, est très très stricte, mais au fond, on lui permet de remplir la fonction qui est la sienne dans l'univers. De la même manière que le fruit, que le légume, va aussi remplir sa fonction au moment où on le consomme. Vous savez, certains attribuent aux végétaux des émotions, c'est pas impossible. Chaque élément présent dans l'univers doit remplir sa fonction. Cet animal, au moment où on l'amène en offrande, Dieu n'en a pas besoin. D'ailleurs, à un moment, c'est ce que le prophète dit, « L'amali rov zifrechem », Dieu dit, mais je n'ai pas besoin de la multiplicité de vos offrandes, car en effet, à un moment, malheureusement, le peuple juif va penser qu'on est ici dans une forme de rituel quasi magique, on offre quelque chose à Dieu, mais non, tout lui appartient, on ne peut pas lui offrir ce qui est à lui. Donc, à travers le korban, on se rapproche. Tout d'abord, vous savez que lorsque l'on amenait un korban, il y avait ce qu'on en appelle smicha. Smicha, c'est-à-dire que celui qui amenait le korban, la personne qui amenait le korban, devait littéralement s'appuyer sur l'animal pour pouvoir faire corps avec elle et réaliser qu'au fond, cet animal est un être vivant, lui aussi est un être vivant, et que peut-être ce que cet animal va vivre, pas peut-être, sûrement ce qu'il va vivre, ça aurait pu lui arriver à lui. Et donc, l'amener à prendre un peu mieux la mesure de sa responsabilité dans un certain nombre de choses. Et à partir de cela, cet animal a rempli le but pour lequel il était sur la terre. Donc, Évidemment, et c'est sûr, et c'est d'ailleurs ce que le prophète dit clairement, Dieu n'a pas besoin que l'on amène des animaux en offrande et en cadeau, sûrement pas. D'ailleurs, on le voit, c'est un texte que l'on dit dans l'Haftara de Yom Kippour, dans lequel Dieu dit « mais je préfère beaucoup plus votre cœur qui est capable de se briser par lui-même, votre cœur qui est capable de faire contrition, plutôt que vous ameniez des animaux et puis ça y est, vous pensez vous débarrasser de moi en m'offrant quelque chose, vous n'offrez strictement rien ». Et le mot « korban » d'ailleurs, eh bien, qui vient de la racine « karev », « karev » c'est les mêmes lettres que le mot « levaker »,« boker ». Levaker, c'est savoir distinguer, « boker », c'est le matin, c'est le moment dans lequel vous avez le passage de la nuit vers le jour, le moment où on apprend à distinguer les choses. Et peut-être qu'il est là aussi pour nous amener à repenser le rapport que nous devons avoir, nous, à l'âme animale. Quelle est sa place? Quel est son but? Est-ce qu'elle est une finalité? Sûrement pas. Elle n'est là que le support par rapport à la dimension essentielle qui est notre âme, c'est-à-dire notre spiritualité. Et il y a peut-être donc ici, en effet, une ouverture sur la fonction qui doit être la mienne dans l'univers, sur la place que je dois occuper. D'ailleurs, on le retrouve régulièrement dans le Talmud, l'importance fondamentale de l'univers des corbanotes, de l'univers des offrandes. Et c'est vrai que notre difficulté peut-être, c'est quoi? C'est que nous avons été biberonnés avec une certaine vision qui n'est pas du tout Torah de l'existence. Pardonnez-moi de le dire de cette manière un petit peu lapidaire, c'est-à-dire que nous nous sommes parfois un petit peu appropriés ce que les univers qui sont autour de nous nous proposent. Et je vous rappelle que un univers qui se préoccupe de l'animal mais qui a été capable de détruire l'humain est un univers qui est aussi censé s'interroger si en effet parfois il n'a pas mis de côté ses fondamentaux, et ça évidemment c'est une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Intéressant aussi de voir que l'univers des corbanotes est extrêmement détaillé dans la Torah, alors que c'est curieux, on va dire bon tu amènes une offrande, non, parce que chaque détail du corban a son importance. Au fond, on a, à travers le korban, conscience que chaque mouvement, que chaque élément de notre vie va avoir un impact qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer. Alors certains diraient, oui, mais d'accord, pourquoi vous ne gardez pas ça au niveau du concept de la philosophie des choses? Eh bien, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce fameux « naase venishma ». Nous allons faire et nous allons comprendre. Ce n'est que lorsque on est dans le passage à l'acte que l'on comprend véritablement les choses. Certains philosophes appellent ça se placer dans l'épaisseur de sa connaissance. Et puis, au fond, dans la mesure, et je crois que c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête, dans la mesure où la Torah est révélée par Dieu, et ça, à un moment, il faut l'inscrire pleinement à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes dans le livre qui est à l'origine de l'univers. Lorsque la Torah nous demande de faire certaines choses, eh bien, nous devons comprendre qu'il y a à l'intérieur de cela quelque chose qui nous dépasse radicalement. Et l'expression de l'amour que l'on a et de la confiance qui est la nôtre dans le Créateur de l'univers, c'est d'être à l'écoute pleinement de sa parole. Intéressant de constater que c'est ce peuple juif qui, à l'époque du Beth Amikdash, amenait des offrandes et nous prions tous les jours pour revenir à nouveau à cette époque du Beth Amikdash, eh bien, dans l'histoire, fait preuve d'une tellement grande humanité vis-à-vis de tout le monde, une sensibilité réelle face au monde qui est autour de lui, parce que justement, ce n'est pas un lieu de cruauté, ce n'est pas un lieu dans lequel on se débarrasse de ce que l'on a envie de mettre de côté à travers les corbanotes. Au contraire, ces corbanotes sont le lieu de la prise de conscience, et en même temps, il se passe d'autres choses au moment où on les amène, et quelque part, on leur permet à eux de se retrouver réellement là où ils doivent être, c'est-à-dire d'avoir rempli le but de ce que j'appellerais leur existence, parce qu'ils existent, et peut-être nous interroger nous aussi, si nous sommes à la recherche de la fonction et de la finalité qui doit être la nôtre à l'intérieur de notre quotidien et de manière plus vaste à l'intérieur de notre vie.
Rav Eli Lemel, on va faire comme vous avez dit. D'abord déjà, sans mauvais jugement, on va essayer de faire des sacrifices, parce que je crois que c'est aussi un bon moyen aujourd'hui, comme vous avez dit, de pas, quoi que c'est cruel, hein, excusez-moi, ne pas finir le plat, c'est très très cruel. Mais on va essayer de faire des sacrifices, savoir un peu, créer un peu de manque, des choses comme ça, et surtout, et grâce à vous, grâce à tous ceux qui font cette émission, essayer de faire Naase ve Nishma. Et tout le monde, comme vous nous avez dit, veut oublier le... Mais on te demande aussi d'étudier pour comprendre. Je vous remercie, Ravi Lilemel, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Et pour une fois, eh bien, je rebondis sur votre Shabbat Shalom. Et vous m'avez veillé encore un tout petit enseignement. Rappelons-nous que Korban, qui veut dire donc sacrifice, c'est-à-dire on renonce à quelque chose qui est à nous, eh bien c'est aussi Karev, c'est se rapprocher. Et peut-être que dans notre vie, si on a envie véritablement d'être proche de l'autre, il faut savoir renoncer à quelque chose de nous-mêmes, renoncer un petit peu à ce que l'on a envie pour soi, pour permettre à l'autre d'avoir une place à nos côtés.
Très beau, très très beau. Et on commence ce soir à la table de Shabbat, avec les enfants et avec son conjoint. Merci à vous, Ravi Lilemel. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat.
Et on part pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, et Shavua Tov, et Purim Sameach, même si c'était il y a quelques jours pour ceux qui nous écoutent, Motzei Shabbat. Restons dans cette Simcha, Bezrat Hashem.
Mais oui, surtout que vous, vous êtes à Jérusalem, et Jérusalem, c'est décalé d'un jour. Donc on a toutes les joies de vous dire Purim Sameach, sachant évidemment qu'après on rediffuse aussi samedi soir. Mais voilà, ne gâchons pas notre joie, c'est le jour pour ça, alors on va pas le bouder. Rav Mordechai Biton, vous voulez intervenir vous ce soir sur la Parashat Tzav, et on pourra en dire un petit mot sur Purim, avec un aspect bien particulier qui est un feu qui brûle toujours, qui est lié à un korban qui lui-même est là pour évacuer les mauvaises pensées. Alors moi, ça fait tellement longtemps que je rêve d'avoir la formule pour évacuer les mauvaises pensées que je vais vous écouter avec une concentration absolue, gravement des habitants.
Eh bien, voilà le secret, effectivement. Ce passouk, ce verset se trouve dans le parashat Tzav. Il est écrit « Esh tamid tukad ala misbeach lotirbe ». Il est écrit qu'il y avait un feu permanent qui montait sur l'autel des sacrifices, lotirbe, et il ne faut pas l'éteindre. Alors le Shla Kadosh, Rav Horowitz, qui est un auteur kabbalistique ashkénaze, dit que ce verset-là, en fait, contient le secret de l'évacuation des mauvaises pensées. Alors, il faut expliquer pourquoi. Le feu dont on parle ici, c'est un feu qui est rapporté au sujet du korban, du sacrifice Ola. Le sacrifice Ola, ce n'est pas un nom d'un abonnement à SFR. Le korban Ola, c'était un sacrifice qui permettait d'expier les mauvaises pensées, les hirurim. Toute personne qui a vu des pensées de faute, des pensées de débauche ou autre, etc., devait amener, ou d'autres mauvaises pensées d'ailleurs, devait amener un sacrifice. Donc, et ce sacrifice, il était entièrement brûlé sur l'autel. Alors c'est intéressant de savoir que le sacrifice qui expie une mauvaise pensée est entièrement brûlé sur l'autel, alors qu'un sacrifice qui expiait par exemple une faute faite de manière inintentionnelle pendant Shabbat était en partie consommé par les Kohanim, par les prêtres. Et il y a quelque chose de très intéressant, c'est que la pensée, c'est finalement ce qui habite dans le cerveau, et le cerveau, c'est ce qui va guider la totalité de l'être. Donc lorsque quelqu'un pense à mal, c'est comme s'il se brûlait entièrement d'une certaine manière. Alors le Shla Kadosh va dire la chose suivante. Il dit, il a appris, et dans un livre de Rabbi Moshe Cordovero, qui était un kabbaliste, Rabbi Moshe Cordovero dit qu'un zaken, une fois, un vieux, qui lui a rendu visite, et ce vieux était évidemment Eliyahu Hanavi, et ce lieu lui a dit, cet homme lui a dit, sache que si on pense à ce verset-là, Esh tamid tukadbo tukad ala bisbeach lotirbe, il y a un feu qui est allumé en permanence sur le sacrifice qui ne s'éteint pas, et bien à ce moment-là, l'individu, il peut évacuer les mauvaises pensées. Alors, il n'y a rien de magique dans cette histoire. Il dit ici que, ce à quoi il faut penser, c'est la chose suivante. Il faut imaginer en quelque sorte qu'on est nous-mêmes en quelque sorte un misbéach, un hôtel, et qu'il y a un feu de passion qui nous élève vers Hachem, et on est entièrement emporté par une passion. Quand quelqu'un est emporté par une passion, on dit il est brûlant, il est chaud pour ce sujet. Alors c'est exactement la même chose. Si quelqu'un se passionne pour son étude de la Torah, va se passionner pour des sujets de Torah, pour des mitzvot. Il va par exemple choisir une mitzvah qui l'intéresse particulièrement, il va l'étudier, il va étudier la manière de le faire, et il va se comporter de manière chaude. il va en quelque sorte penser à cette mitzvah avec chaleur, avec émotion, avec enthousiasme. Donc il va réchauffer son corps, réchauffer son esprit, se chauffer, comme on dit en français, même de manière triviale, se chauffer pour quelque chose, se chauffer pour un bon plan. On dit bien cette expression, elle dit bien les choses ici. Devenir complètement chaud pour cette mitzvah. Alors qu'est-ce qui va se passer? Cette chaleur qu'il va mettre de cette mitzvah, alors elle va en quelque sorte lui permettre d'éteindre ses mauvaises pensées. Autre exemple qui est donné, imaginons qu'on vive à l'époque de l'Inquisition et qu'on arrive à imaginer, on utilise ce que le Rambam Maïmonide appelle le Koach HaMedame, c'est-à-dire la force qui consiste à créer des images, et c'est à ça que sert la pensée très souvent. Si on peut créer des images négatives de débauche avec la pensée, on peut aussi créer des images de sainteté. Imaginez qu'on vive à l'époque de l'Inquisition, ou à l'époque des croisades, ou à l'époque où les Cosaques nous poursuivaient en Ukraine en 1648-1649, et nous laissaient chercher à nous convertir de force, et qu'au lieu de se convertir de force, on saute dans un feu pour ne pas se convertir au christianisme. Alors, il dit, ici l'auteur, il dit, imaginons qu'un individu est capable de penser une chose pareille, automatiquement, ses mauvaises pensées, elles s'arrêtent. Donc voilà, ici, un enseignement qui est absolument directement lié à la paracha, mais qui est un enseignement fondamental. Pour éteindre des mauvaises pensées, et l'univers de la pensée, l'univers de l'imagination, on sait que c'est un univers qui est extrêmement prégnant chez chacun d'entre nous, il faut créer en quelque sorte une contre-imagination qui nous rapproche en quelque sorte à la fois de mitzvot qu'on aime bien, qu'on peut faire de manière concrète et qui vont en quelque sorte occuper notre esprit, ou alors au contraire penser à des choses qui sont peut-être plus dramatiques, mais qui sont en quelque sorte de nature à automatiquement stopper ces mauvaises pensées et au contraire nous ancrer vers des pensées qui sont plus propres et plus productives. Alors ça, c'est le premier point sur Parashat Tzav. C'est intéressant, on lit Parashat Tzav au moment de Pourim. Alors c'est intéressant parce que dans l'histoire de Pourim, la pensée, elle a quand même quelque chose de très intéressant. Aman, il a pensé à faire un certain nombre de choses, mais il n'a pas pu réaliser ce qu'il voulait faire. Mordechai, il a prié. Il a prié, il n'a pas tellement agi sur le plan politique, il a réuni des enfants, il a étudié la Torah avec eux, il a prié. Esther, elle a jeûné. Elle, avant de se présenter devant le roi. Et quand elle s'est présentée devant le roi, elle a révélé au roi à la fois ce que Aman avait dit et ce qu'il avait pensé, et ce que le roi avait dit et avait pensé. Et quand on analyse l'histoire de Pourim sous cet angle-là, on tombe sur quelque chose qui est très intéressant. C'est que finalement, cette histoire, c'est une histoire avortée pour Achashverosh et pour Aman. D'accord ? Ils ont pensé faire quelque chose et ils ont essayé de le traduire dans l'action. Et finalement, ils ont écrit une lettre. Et la Megillah se termine sur le fait que les lettres d'Aman, elles n'ont pas été annulées, elles ont juste été suspendues. À la fin, quand Mordechai et Esther vont retourner à Achashverosh, qui vont obtenir la pendaison de Aman, ils vont demander au roi d'abolir le décret. Le roi dit « je ne peux pas abolir le décret, je ne peux que en changer l'ordonnancement des mots, mais je ne peux pas changer le décret lui-même ». Et donc les lettres d'Aman, elles sont suspendues. Jusqu'à nos jours, les lettres d'Aman sont suspendues. Donc ça veut dire qu'il y a une pensée qui ne s'est pas réalisée, il y a une parole qui ne s'est pas réalisée, mais cette parole et cette pensée, elles ont une prégnance sur l'histoire. Et qu'est-ce qui les a repoussées, finalement, ces pensées, ces paroles de Aman et de Achashverosh? C'est la prière de Mordechai et de Am Israël, la teshuva d'Am Israël, l'étude de la Torah des enfants, le jeûne d'Esther, c'est-à-dire finalement la traduction d'une pensée de sainteté, d'une pensée de lien avec Hachem par la parole. Donc vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Il y a un roi et un méchant vizir qui pense et qui parle, et en face d'eux, il y a des juifs qui pensent et qui parlent, qui prient et qui étudient la Torah. Le monde dans lequel on vit est un monde qui est guidé par la pensée et la parole. Et là, on a le choix à Pourim. On va lire la Megillah. Megillah Shos, c'est Migdashen Gilui. On dévoile. On dévoile ce que la pensée est traduite dans une parole de sainteté pour produire dans l'histoire. Face aux lettres d'Aman qui sont suspendues au-dessus de nos têtes depuis plus de 2000 ans, eh bien, il y a une autre pensée, une autre parole qui est celle de Dieu, qui est celle de la Torah, la pensée de la sainteté, la pensée des hommes, la tfila, l'étude de la Torah, la prière, etc., qui sont des pensées et des paroles qui font face à une pensée de destruction. C'est absolument incroyable de penser précisément qu'on peut, parce qu'on va réfléchir d'une certaine manière et parler d'une certaine manière, contrer la pensée de quelqu'un qui a des canons et des tanks et qui pense qu'avec ses canons et ses tanks, il peut détruire. Sans glisser de manière trop radicale vers l'actualité, mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on voit le combat que les Ukrainiens livrent contre Poutine, et Poutine pensait qu'il avait le Koach. Mais eux, ils ont le Rouach. Il avait le Koach, il a des tanks. Eux, ils ont le Rouach, ils ont une pensée, une réflexion, un état d'esprit, et cet état d'esprit, il résiste au fer. C'est incroyable, ça nous paraît étonnant. Et lui, il pensait terminer cette histoire en 3 jours. Je ne sais pas s'il la terminera, je ne sais pas jusqu'où là, et je souhaite que cette guerre se termine et qu'il reparte en arrière et qu'il essuie une défaite. Mais en tout cas, on voit ici la puissance de l'esprit et de la pensée face au fer. Alors imaginez la puissance de l'esprit de la Torah, la puissance de l'esprit des mitzvot, la puissance des paroles de la mitzvot face à une volonté de destruction. On véhicule la pensée de Dieu et la parole de Dieu face à des hommes qui se prennent pour Dieu. C'est sûr qu'on est plus fort à ce jeu-là. Purim Sameach encore une fois, et Shabbat Shalom, et Shavuot Tov, ça dépend qui nous écoute, en tout cas, que on continue, comme on va poser la question sur Torah Box, c'était abordé, comment on se prépare à la Simcha de Purim? Bah, tout simplement, comme disait Rav Israël Salanter pour Yom Kippour, lui, il prépare Yom Kippour dès la sortie de Yom Kippour. Pour se préparer à la Simcha de Purim, il faut tout simplement être Besimcha dès la sortie de Purim. Alors, Purim Sameach.
Ben oui, mais c'est tellement vrai ce que vous dites, moi qui ne suis pas un érudit, qui suis un journaliste. Bon, déjà, c'est sûr que si aujourd'hui il y a...
Non, vous êtes un journaliste érudit, vous.
Ah, merci, c'est gentil, tiens, ça fait plaisir ça. S'il y a une radio Shalom, un Rav à Jérusalem qui parle, c'est vraiment la preuve vivante de l'esprit, car vous nous parlez de Jérusalem après sa destruction il y a 2000 ans quand même. Donc c'est vraiment, vous êtes l'incarnation vivante de ce que vous dites. Et alors, après, concernant ce qui vraiment rentre dans mon corps de métier, l'Ukraine, c'est incroyable, parce que Poutine, c'est exactement ce que vous dites. Il a dit, vous savez, un jour, c'est le général de Gaulle qui avait dit, l'ONU, combien de chars, combien d'avions? Donc lui, Poutine, il a regardé les gentils Ukrainiens, il leur a dit, combien vous avez de chars, combien vous avez d'avions? Ça me prend 3 jours pour venir dans votre capitale. Il n'avait pas prévu l'esprit. C'est pas seulement l'esprit, c'est l'âme. Il n'avait pas prévu l'âme de ce peuple qui lui a dit un jour, le président Zelensky a dit, j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes, et on est 3 semaines après et il est toujours là. Donc oui, l'esprit fait des choses, et c'est pour ça qu'on a écouté avec passion ce que vous nous avez dit, parce que on a autour de nous l'illustration de quelque chose qui, comme bien entendu, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, est incroyable. C'est incroyable. Comment avec un esprit je vais arrêter un missile? Ouais, bah oui, je peux. Incroyable. Rav Mordechai Biton, Purim Sameach, Leitraot.
Leitraot, Purim Sameach.
On se retrouve dans un instant pour la suite de Kabbalat Shabbat.
Et nous sommes en ligne avec Maya Chadret. Bonsoir Maya Chadret, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom et Chag Shushan Purim Sameach.
Ah bah avec plaisir, on va même se dire aussi Shavuot Tov pour ceux qui nous écoutent le samedi soir. Mais effectivement, on a le droit de se dire encore Purim Sameach, puisque à Jérusalem, c'est le jour de la fête. Donc ne nous privons pas de ce plaisir. Et chaque fête, pour les Juifs, c'est l'occasion d'étudier un peu. Et on va donc revenir à notre texte qui est Tzav, comme on l'a dit précédemment. Tzav veut dire ordonner. Et vous, dans ordonner, vous y voyez une idée... sous-jacente. Quand on donne un ordre, c'est qu'on implique, on dit à la personne à qui on parle, que tu le veuilles ou pas. Donc, ça va nous permettre de réfléchir ce soir à comment on fait des choses, même si on n'en a pas envie.
Eh oui, alors, absolument. Alors, vous savez, cette paracha, cette deuxième paracha là, du livre de Vaïkra, on est toujours dans le livre des Korbanot, donc j'appelle ça le livre du rapprochement, le livre de la proximité à Dieu, parce que Oui, on peut et on doit travailler sur cette proximité avec le spirituel, avec l'infini. Et alors, jusqu'à la destruction du temple, eh bien, il y avait une méthode, un mode d'emploi, c'était aller au temple, c'était apporter des offrandes. Alors, j'aime pas du tout le terme de sacrifice qui rend très mal le mot korban. Hein. Korban, c'est de la proximité, donc c'est plus une offrande. Et donc, on apportait ces offrandes et puis on ressentait réellement quelque chose de très très fort. Aujourd'hui, on ressent, je dirais, un mini pourcentage de ça quand on va au Kotel, au mur des lamentations, hein, quel que soit le jour de l'année, quelle que soit l'occasion. Je sais que tous les Juifs du monde, quand ils arrivent au Kotel, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, cette proximité, c'est cet endroit, c'est ce trait d'union avec l'infini, le spirituel et le divin. Mais contrairement à la paracha de la semaine dernière, qui commençait par les mots Vaïkra el Moshe, et donc qui est invité à Dieu qui appelle Moshe par son petit nom, donc c'est vraiment une invitation de très très grande proximité. Eh bien, cette semaine, la paracha s'appelle Tzav. tsav, comme dans le mot mitzvah. Mitzvah, c'est un ordre, c'est un commandement. Donc tsav, tu ordonneras, Dieu dit à Moïse, d'ordonner à Aaron et à ses fils, donc tous les prêtres responsables des offrandes, des responsables du service divin au sein du temple. Donc si cette paracha s'appelle tsav, c'est qu'elle va évoquer tout ce qui est de l'ordre, de l'ordre justement, et de la contrainte, de l'obligation. Alors, vous savez, les Rahamim se sont beaucoup questionnés sur cette paracha qui reprend en réalité beaucoup de thèmes de la semaine dernière. C'est les différentes catégories d'offrandes, vous le savez, il y a la Ola, l'Holocauste, il y a le Khatat, le Shlamim, etc. Donc, il y a plusieurs familles, plusieurs catégories d'offrandes qui sont données en fonction des situations. Et ça va être donc repris cette semaine. Alors, il y a une grande différence entre ce qui est évoqué cette semaine et la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait d'un désir volontaire et spontané de l'homme de se mettre dans une posture, dans une situation de proximité, dans une situation d'amour envers son créateur. Il a envie de ressentir quelque chose et donc il va faire des choses en fonction, en vue de ce rapprochement. Cette semaine, c'est tsav. Tsav, c'est même si tu n'en as pas envie, même si spontanément, ça ne s'éveille pas en toi naturellement, il y a des choses qu'il faut faire parce qu'il y a des commandements et ces commandements sont stricts, sont rigoureux. Vous savez, souvent, on entend beaucoup de juifs dire « moi, je fais si je le ressens, je ne le fais pas si je ne le ressens pas, il y a des choses que je ne ressens pas, quand je le ressentirai, je le ferai ». Alors, certes, il est extrêmement important de ressentir les choses. Hein. Nous ne sommes pas des robots. La Torah est une Torah qui est pleine d'émotions, de vie, d'intensité. Mais pour autant, il y a des commandements et nous devons de respecter ces commandements. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de faire les choses parce qu'on le désire et de les faire spontanément. Mais est-ce que si on ne le désire pas, s'il n'y a pas cet élan naturel qui s'éveille en nous, est-ce que pour autant on doit renoncer au commandement ? Non. Dans ce cas, il y a le tsav, il y a l'ordre. Et il y a un verset qui revient beaucoup tout au long de cette paracha, pour moi, qui résume un petit peu l'état d'esprit juif. Le verset dit « Esh tamid tukad al hamizbeach » Il y aura un feu permanent sur l'autel. L'eau tirbe, qu'il ne soit jamais éteint. Et cette phrase va revenir. « Esh tamid », ce feu permanent. Et évidemment, la chassidout voit dans ce feu permanent, au-delà des braises qui étaient toujours allumées à l'intérieur de l'autel, bien sûr, le Cohen faisait extrêmement attention à ce que les braises soient toujours en permanence dans cet état de d'éveil. Eh bien sûr, la chassidout va voir à travers ces braises notre état spirituel, notre état intérieur, que jamais on ne soit éteint, qu'il y ait toujours ce désir, qu'il y ait toujours cette flamme, et elle est toujours là, hein, je dois le dire, j'ai le bonheur de rencontrer énormément de juifs qui ne sont pas forcément pratiquants et chez lesquels c'est magnifique de voir cet élan, ce désir. Alors, des fois, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment faire, mais il y a cette braise, ce feu, ce eshtamid est là. Et il faut qu'il soit là. Et Rashi, sur place, sur le mot tsav, va dire En tsav est là lachon zirouz. À chaque fois qu'il y a le mot tsav, c'est pour nous inviter à l'empressement. Alors, vous savez, dès qu'on sort de Pourim, on pense à Pessah. Pessah arrive ce grand thème-là de l'empressement, puisque il ne faut pas laisser le pétrin, c'est-à-dire il ne faut pas laisser en fait la farine fermenter. La farine fermentée, c'est juste une farine qu'on a laissée, qu'on a juste rien fait. Ne rien faire, eh bien, c'est laisser place à la poussière, à une vie poussiéreuse, à une vie sans entrain, à une vie je dirais banale, de continuité, où les choses sont telles qu'elles sont sans être dynamiques. Et donc là, dès qu'arrive Pessah, eh bien, de nouveau, on doit se redynamiser. Alors, comment est-ce qu'on se redynamise ? Est-ce que se redynamiser, c'est se dire « je suis obligé, donc je dois le faire » Ou est-ce que se redynamiser, c'est chercher cette braise, cette flamme intérieure qui peut nous créer de l'émotion ? Alors, pourquoi je pose cette question ? Parce qu'il y a une grande question que pose Rav Moshe Feinstein à ce propos. Il dit la chose suivante. Il analyse sociologiquement l'état du judaïsme aux États-Unis post-Shoah, dans lequel il y avait des personnes qui ont survécu ou qui ont réussi à se réfugier à temps aux États-Unis. Et vous savez, aux États-Unis, juste après la guerre, il fallait reconstruire le pays, et donc c'était le 7 sur 7. Hein, il fallait travailler 7 jours sur 7. Et combien de Juifs perdaient leur emploi en n'allant pas travailler le samedi et devaient dimanche retrouver un nouvel emploi? Et il pose une question énorme. Il dit, comment se fait-il que ces Juifs-là, qui tous se sont vraiment donnés à fond pour garder le Shabbat, eh bien, vraiment, l'écrasante majorité de la génération de leurs enfants, non seulement ont abandonné la Torah et les mitzvot, mais pour la plupart ont créé les premiers mariages mixtes, mariages assimilés. Alors que les parents se sont tellement battus pour préserver le Shabbat. Et la réponse de Rav Moshe Feinstein, elle est extraordinaire, parce qu'on pourrait dire qu'ici, il y a un empressement. Il y a le fameux Zirouz du Rashi, l'empressement à faire. Alors, il dit que c'est un empressement, certes, mais qu'à chaque fois qu'arrivait le Shabbat, et qu'ils savaient très bien que leur travail allait être perdu, qu'il fallait trouver un nouveau travail le dimanche, ils disaient en yiddish, « Oh, que c'est difficile d'être juif !»« Aïe, c'est dur d'être juif !» Et finalement, les enfants ont davantage retenu cette phrase, « Comme c'est difficile d'être juif !» que l'empressement, l'amour et l'émotion. Et donc, je crois qu'ici, il faut faire extrêmement attention avec ce Zirouz du Rashi, et bien comprendre que l'empressement, c'est un empressement rempli d'amour. Ce n'est pas un empressement rempli d'un poids, d'une contrainte. C'est-à-dire que si on fait les choses parce qu'on est obligé de les faire, alors faisons-les, mais que ce qui est transmis à la génération suivante soit l'empressement plein d'amour et pas l'empressement plein de difficultés. Pourquoi je fais cette précision? Parce que juste après, Rashi dit « Lachon Zirouz », donc on a dit, on s'empresse, « Miyad ou les dorotes », tout de suite, et pour les générations d'après. Il y a la réflexion du tout de suite. Moi, je m'empresse parce que je dois le faire. Alors, je prends sur moi. C'est une contrainte, c'est difficile. Je le fais même si je n'ai pas envie. Mais qu'est-ce que vont voir la génération d'après? Qu'est-ce que mes enfants vont voir de mon empressement? Est-ce qu'ils verront que c'est un empressement parce qu'il y a un feu permanent en moi? Ou est-ce qu'ils verront que c'est un empressement parce que je porte un poids qui est bien difficile? Et donc, je crois que ce Shabbat, où c'est le premier Shabbat après Pourim, et donc, on avance vers Pessah, pensons à l'empressement, mais pensons à cet empressement qui est rempli d'émotions et d'amour et de désir de servir notre Créateur en réveillant en permanence cette flamme, ce feu permanent à l'intérieur de nous.
Très très beau ce que vous venez de nous dire, Maria. Moi je pense effectivement qu'il y a quelque chose qui s'appelle aussi l'éducation silencieuse, et que, par exemple, moi je connais beaucoup de familles, les enfants ne sont pas religieux. Mais les parents aiment tellement le Shabbat qu'ils l'ont transmis aux enfants qui ne sont pas religieux et qui pourront revenir, parce qu'ils aiment ça. Et à l'inverse, par exemple, prenez l'exemple de Pessah. Tout le monde, en général, tout le monde aime Pessah. Mm-hmm. Et bien même celui qui n'est pas religieux, il sait que Pessah, c'est super. Et donc c'est très important la façon dont on le transmet, parce qu'on appellera l'éducation religieuse, silencieuse, pardon, c'est-à-dire sans même s'en rendre compte. Moi, j'ai vu en Israël des gens à Netivot, à Dimona, qui dans les années 80, ils faisaient plus rien. Mais c'était tellement important pour leurs parents marocains. Ils savaient qu'un jour, si c'est pas eux qui reviendraient, ce seraient leurs enfants. Très, très beau ce que vous avez dit ce soir, Maréchal. Mmh. Très agréable, très beau, super. Et je pensais aussi, quand vous avez donné l'exemple, vous avez dit, regardez-nous l'émotion spéciale qu'on a quand on va au Kotel, ce qui est vrai. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est à ça que je pensais. Je me suis dit, il y a un autre truc, c'est le Sefer Torah.
Tout à fait.
Prends le juif le plus éloigné. Prends, mais vraiment celui qui mange Kippour, qui fait vraiment, qui va au travail, qui va au bureau, et dis-lui, tiens, ça, jette le Sefer Torah par terre, il en est incapable. Il n'y a pas un juif, ou alors celui qui sait pas, le juif russe qui habite en Sibérie, ça peut-être. Mais les juifs qu'on a, nous, autour de nous, c'est pas un juif qui peut jeter un Sefer Torah par terre. Pas un, d'après moi.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Le respect du sacré, absolument. Mmh. Et bien voilà, qu'on ait le mérite de transmettre tout ça à nos enfants, amen, avec enthousiasme.
Voilà, et avec amour. Maria Chadré, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et à la bientôt. Semaine prochaine.
Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmari yid, shalom shokat shoy meh.